Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les précédents historiques de la pénitence de Canossa et quelle est la puissance politique d'une royauté inspirée du David biblique? Comment la réforme grégorienne a-t-elle pu produire un chassé-croisé entre sacralité et souveraineté, s'interroge l'historien médiéviste Patrick Boucheron. Comment ce chassé-croisé et l'épisode de Canossa permettent-ils la possibilité d'une expérience politique ou qu'il y ait des expériences politiques? Enfin, comment les inventions pontificales en matière d'art de gouverner se sont-elles dispersées dans toute l'Europe et se sont rendus disponibles à d'autres expériences? Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, nous entraîne cette semaine et la suivante dans une grande enquête sous le titre « Les inventions du politique, expérimentation médiévale ». Pour l'historien, il s'agit de risquer une théorie générale, non pas des systèmes de pouvoir médiévaux, mais de son inventivité politique. Le cours d'aujourd'hui va rappeler l'approche critique et scientifique d'un Moyen-Âge dont il ne faudrait pas grossir l'altérité tout en se préservant des pièges d'une fausse familiarité et en expérimentant, si possible, de nouvelles voies. Ces nouvelles voies semblent s'ouvrir avec l'épisode de Canossa. C'est l'événement fameux, datant de presque 800 ans, que Patrick Boucheron introduisait à la fin du cours précédent pour le soumettre à différentes lectures. La pénitence humiliante, quoique, du roi des Romains Henri IV face au pape Grégoire VII en janvier 1077. Le conflit entre le Salien Henri IV, élu roi de Germanie en 1056, et Grégoire VII, pape depuis 1073, engage une question majeure, a souligné encore Patrick Boucheron, dans la réorganisation des pouvoirs en Occident. Rien moins que la concurrence entre deux prétentions à l'universel. L'historien médiéviste a aussi rappelé que portant sur la nomination des évêques et des abbés, leur conflit engage une question prépondérante dans la réorganisation des pouvoirs en Occident, ce que les historiens appelleront bien plus tard la querelle des investitures. Pape destitué, roi excommunié, les deux hommes de pouvoir se sont mutuellement anéantis. Patrick Boucheron nous a présenté Henri IV, soumis à la pression des princes de l'Empire, contraint d'aller demander le pardon de Grégoire VII, qui est alors en villégiature dans un des châteaux de la comtesse Mathilde de Toscane, à Canossa, dans les Apennins. Le roi Henri IV décide alors de franchir les Alpes en plein hiver, comme jadis Charlemagne. Le moine chroniqueur Lambert de Hersfeld décrit dans ses annales la troupe royale se hissant à grande peine sur les sommets abrupts, tantôt à quatre pattes, tantôt en s'agrippant aux épaules de leur guide, tirant le roi sur une peau de bœuf. Alors qu'est-ce qui se joue au-delà des neiges de Canossa? Nous retrouvons le grand amphithéâtre du Collège de France, lui à l'abri de la neige tombée sur Paris le 22 janvier 2019. Patrick Boucheron poursuit son analyse de l'événement fameux de Canossa et il va nous dire dans l'heure pourquoi il a intitulé le cours d'aujourd'hui « Les conditions religieuses de l'expérience politique ».
Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être venus. Bah oui, parce que c'est vrai, donc, winter is coming, il neige, mais il neige moins qu'à Canossa. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous en étions là. Ce qu'il faut retrouver à travers la blancheur et l'inertie de la mort, ce n'est pas le frémissement perdu de la vie, c'est le déploiement méticuleux de la vérité, nous en étions là, avec le beau danger de Michel Foucault, à choisir les instruments chirurgicaux de cette anatomie de la gloire qui nous occupait alors Et la blancheur et l'inertie de la mort, à ce moment-là, c'était la neige. C'était le champ de neige où un roi, Henri IV, s'enfonçait, grelottait, pleurnichait, suppliait, tandis qu'un pape, Grégoire VII, attendait le moment de lui ouvrir la porte pour l'accueillir dans le giron de l'église. Et c'était en janvier 1077 à Canossa, et nous avions constaté qu'à l'issue d'une enquête serrée des sources et de leurs contradictions, de ce qu'elles disent et de ce qu'elles cachent, c'est cela pour l'enquête historique, le déploiement méticuleux de la vérité, nous avions constaté donc que les historiens avaient acquis la conviction que cette humiliation de Canossa n'était pas une capitulation, mais la ritualisation d'une négociation préalable dans un système anthropologique général où l'humilité chrétienne pouvait se renverser en spectacle de gloire. Demeure toutefois une question. Quel précédent historique les contemporains de cet événement spectaculaire peuvent-ils invoquer pour en saisir la portée, en discipliner l'effet? Pour le chroniqueur Berthold de Reichenau, par exemple, cela ne fait guère de doute. C'est à la pénitence infligée par Ambroise à l'empereur Théodose après le massacre de Thessalonique que l'humiliation de Canossa doit être comparée. Je rappelle brièvement les faits. Nous sommes au printemps 390. Il y a une émeute qui éclate à Thessalonique. Il y a le gouverneur Butéric qui se fait massacrer. Théodose réside à Milan, apprend la nouvelle, rentre dans une grande colère et il ordonne l'exécution des Thessaloniciens et ni l'appel à la clémence d'Ambroise ni les conseils de son maître des offices Ruffin ne réussissent à le convaincre et durant 3 heures, la troupe massacre la foule qu'on avait préalablement massée dans le stade, faisant 7000 morts d'après les sources du 5e siècle, mais le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, évidemment, dans les sources plus tardives. Donc cet événement amène Ambroise à exhorter Théodose à la pénitence, à exiger du prince un repentir public. C'est la première fois, dit Peter Brown, qu'un évêque ose élever la voix pour s'opposer à un empereur au nom de son franc-parler, de sa parésia. Il le ramène à la mesure du gouvernement juste. Donc il y a quelque chose qui se noue sur le gouvernement pastoral, c'est-à-dire user avec franc-parler d'un appel à la modération. Et il le fait justement en faisant assaut de modération. Il puise dans le livre des rois, dans les psaumes, des exemples bibliques montrant que la pénitence n'avait rien pour abaisser un roi, mais qu'au contraire, l'humble acceptation de la fragilité de la condition humaine peut au contraire frayer une voie triomphale, glorieuse, vers la grandeur paradoxale du prince chrétien. Et ce qui est en jeu, ce n'est rien moins que la mise en place de la doctrine dite gélasienne des deux pouvoirs, potestas et auctoritas, qui sera théorisée à la fin du 5e siècle à partir d'une compilation juridique portant le nom du pape Gélas Ier et qui emprunte à de nombreuses sources patristiques et notamment Ambroise, comme l'a montré Pierre Toubert, en partie aussi sur la politique de l'anathème et de l'excommunication. Donc, Théodose pleure pendant 8 mois, puis il cède, et s'il cède, s'il accepte de se repentir publiquement de l'énormité de son crime, c'est précisément, raconte Paulin de Milan, dans la vie d'Ambroise, parce qu'il prend conscience de la puissance politique d'une royauté davidienne. Et voilà pourquoi, en dédiant son apologie de David à Théodose, Ambroise ne fait pas qu'inviter l'empereur à s'écrier comme le roi coupable, celui qui s'accuse est juste. Il rédige, écrit son commentateur Pierre Hadot, une sorte de politique tirée de l'Écriture sainte qui servira de modèle aux évêques carolingiens quand ils composeront, à l'aide de modèles bibliques, le portrait du prince parfait. Mais oui, parce que là encore, si le souvenir ambrosien de la pénitence de Théodose est disponible pour les auteurs du XIe et XIIe siècle qui doivent construire le sens de l'événement de Canossa, c'est au filtre carolingien. C'est effectivement parce qu'il est passé par la mémoire carolingienne, c'est parce que les deux pénitences publiques auxquelles l'empereur Louis le Pieux s'est soumis lors de son règne, la première à Attigny en 822, la seconde à Soissons en 833, ont fait prendre au ministère royal un tournant expiatoire, à l'issue duquel le recours à l'admonestation est hissé au rang de mode de gouvernement. Or, la référence ambrosienne, qui était déjà explicite dans les écrits carolingiens sur des pénitences du fils de Charlemagne, comme l'ont montré les travaux fondamentaux de Maïké de Jonc, eh bien, il est relancé au-delà, je dirais, de sa période réelle d'efficacité, c'est-à-dire pendant, au cœur de la réforme grégorienne. De ce point de vue, la position d'Henri IV, attendant aux portes du château, protégé d'une triple muraille, avant d'être admis le quatrième jour, dépouillé de ses habits royaux, à se présenter devant le pape à l'intérieur de la deuxième enceinte, fait évidemment écho à la scène fameuse de Théodose, qui est maintenue au seuil de l'église par l'évêque d'Amboise, là encore, selon un sens du spectacle chrétien qui va être admirablement glorifié par le théâtre de la contre-réforme, et qui ne vient pas d'ailleurs des sources latines, mais des sources grecques, parce qu'il y a aussi un Ambroise grec, parce qu'à Constantinople, on a effectivement vraiment intérêt à dire à l'empereur qu'il ne doit pas pénétrer le sanctuaire, et comme l'a montré Gilbert d'Agron, au fond, il y a derrière, évidemment, la question centrale, la question déterminante, la question cruciale de la séparation. Donc, derrière l'humiliation de Canossa, la gloire. C'est, d'une certaine manière, cette idée qui doit, au fond, amener à comprendre qu'on est au cœur de cette idée, je dirais, cruciale de la réforme grégorienne. Parce que si l'hypothèse que j'ai acceptée est exacte, la pénitence de Canossa est moins une capitulation que la ritualisation d'une négociation préalable, alors elle constitue une expérience politique ou une expérimentation de la capacité politique d'échange et de négociation, mais elle témoigne aussi d'une forme de rationalisation de l'action politique, y compris d'ailleurs dans l'usage des précédents, que l'on peut interpréter dans le contexte de la réarticulation entre pouvoir spirituel et temporel comme une forme de désenchantement, au sens de Stephen Weinfurter. Et de ce point de vue, la rencontre de Canossa peut être interprétée comme cruciale pour la compréhension du mouvement grégorien. Au-delà de sa dimension disciplinaire, la lutte contre le mariage des prêtres et le trafic des biens ecclésiastiques, au-delà même de sa portée politique, la querelle des investitures, la réforme, on le sait, est un phénomène social total qui précipite le passage d'un ordonnancement du monde à l'autre, au sens de Tellenbach, divisant radicalement la société chrétienne entre l'ordre des clercs, fondé sur le célibat, et l'ordre des laïcs, fondé sur le mariage, rehaussant la valeur du sacrement pour faire de l'Eucharistie le cœur de l'œuvre du salut, protégeant les biens de l'Église comme des choses spirituelles, spiritualia par opposition au temporalia, la coupure grégorienne fait advenir une société nouvelle, comme l'écrit Florian Mazel, si l'ecclésiologie grégorienne apparaît avant tout comme une ecclésiologie de l'institution, on peut dire, en paraphrasant Pierre Legendre, que le principe de séparation est ce qui fonde l'institution. Or, le paradoxe est que la productivité historique de la réforme grégorienne, ou, je dirais, sa puissance instituante, résulte de son échec à concentrer la totalité de la puissance entre les mains du pape, à mettre en œuvre, au fond, le dessein de l'englobement de la société chrétienne tout entière par l'Ecclésia. Et voilà pourquoi il peut y avoir de la politique. La domination théocratique est un projet mort-né. La dissémination des pouvoirs en Europe occidentale naît sur les décombres de ce rêve politique. La commune en Italie, par exemple, n'est rien d'autre que la modalité urbaine de cette institution d'un nouvel ordre féodal. Et donc, plutôt qu'une séparation entre les deux ordres, la réforme grégorienne produit un chassé-croisé entre sacralité et souveraineté, que Ernst Kantorowicz a décrit dans un passage lumineux de son article sur les mystères d'État, ainsi, je le cite, « Sous le pape, princeps et verus imperator, l'appareil hiérarchique de l'Église romaine manifesta une tendance à devenir le prototype parfait d'une monarchie absolue et rationnelle fondée sur une base mystique, alors qu'au même moment, l'État avait de plus en plus tendance à devenir une quasi-église et, à d'autres égards, une monarchie mystique fondée sur une base rationnelle. » Sans doute est-il trop abrupt pourtant d'affirmer, ainsi que je l'ai fait dans ma leçon inaugurale, que le programme grégorien avait échoué. Il a échoué, oui, en tant que l'Ecclésia désigne non seulement l'Église, mais sa capacité à s'imposer comme une institution totale, et qu'elle fait du christianisme non pas une religion, mais une structure anthropologique englobante et du gouvernement de l'Église, une réalité coextensive à la société tout entière. En ce sens, s'il y a des médiévistes, c'est pour comprendre pourquoi, malgré l'ambition proprement totalitaire ou totale de la papauté, comme le dit Dominique Yungapra, l'Église occidentale n'a pas accouché d'une théocratie. Mais le moment grégorien n'a pas échoué comme expérience, parce que, justement, si on veut retrouver le sens de l'expérimentation, eh bien, c'est aux situations concrètes qu'il ouvre, qu'il nous faut nous intéresser. Canossa met donc en scène une histoire longue, de la disponibilité d'un souvenir de David à Bismarck et au-delà, dans la scansion d'un récit qui est, on l'avait vu, hétérogène, discontinu, un récit des rémanences et des résurgences, et qui n'a pas, au fond, la netteté coupante de la rupture du changement d'époque. Or, la réforme grégorienne, dont la scène de Canossa est en somme, oui, je reprends l'expression, une des expérimentations rituelles. La réforme grégorienne se donne comme une coupure franche, comme un partage des lieux, le domaine de Dieu, le domaine de l'empereur. Grégoire VII rejouait à Canossa la scène du bon pasteur arrêtant l'empereur Théodose au seuil de l'Église, à ceci près que Henri IV n'est pas encore l'empereur, il le deviendra précisément à l'issue de sa pénitence, ce qui n'est paradoxal qu'en apparence, et que l'évêque de Rome est un nouvel Ambroise, certes, mais au filtre de ses vies grecques. Je l'avais juste suggéré, c'est à partir effectivement d'une des vies grecques d'Ambroise, l'histoire ecclésiastique de Théodoret de Cyre, que cette histoire est disponible. Et dans cette vie grecque, et on comprend pourquoi c'est intéressant en Grèce, lorsqu'on lit Gérard d'Agron, empereur et prêtre, il y a une nécessité à Constantinople, à ce moment-là, à apprendre les lieux, écrit Théodoret de Cyr, apprendre les lieux à ceux qui gouvernent, c'est-à-dire qu'ils ne pénètrent pas dans le sanctuaire, précisément pour que les choses soient tranchées. Une coupure, donc, pour séparer deux lieux, deux pouvoirs. Et au sens large, ce XIIe siècle, ce large XIIe siècle de la rénovation de l'Empire, de Léon IX à Innocent III, définit de fond en comble le dominium ecclésiastique. On l'a vu, on le sait maintenant. Nouvelle définition institutionnelle, nouvelle procédure élective, nouvelle juridiction épiscopale, nouvelle doctrine sacramentelle. Cette dernière soldant la querelle eucharistique dans un sens réaliste. Donc, à partir du moment où, effectivement, le sacrement est directement efficace, eh ben, il fonde l'appartenance à l'Ecclésia. Et cela crée, au fond, un acte de séparation. Exclusion des juifs, des infidèles, des hérétiques, et tout cela, effectivement, créant aussi les conditions de ce que Robert Moore appelle une société de persécution. C'est tout ça, le XIIe siècle. Parce que telle est l'autre séparation qui essentialise la différence entre clerc et laïc, et cette différence qui, évidemment, existait fonctionnellement, devient non plus une existence d'ordre, ordo, mais de, on va dire, genus, de genre, c'est ce que dit Hugues de Saint-Victor dans son De Sacramentis Christianae Fidei, en distinguant deux façons de vivre, et on reviendra là-dessus, cette question de la forme de vie
du mode d'existence, deux façons de vivre, l'une terrestre et l'autre terrestre, selon ces deux façons de vivre, il existe deux peuples, et dans ces peuples, deux pouvoirs. Et dès lors, l'autorité ecclésiale se spiritualise, la seigneurie des laïcs se sécularise, et comme d'autres seuils se superposent sur ce XIIe siècle taillé large, changement de faciès archéologique, la révolution documentaire, les logiques spatiales de territorialisation des pouvoirs par Topoligné, les médiévistes aujourd'hui y trouvent la charnière entre deux Moyen-Âge nettement séparés. Donc, une charnière. Une charnière, et peut-être encore davantage qu'une charnière, un chiasme. Parce que vous vous souvenez, là encore, de ce que je disais avec Kantorowicz, le moment grégorien se donne comme une coupure, mais en réalité, c'est un chassé-croisé. C'est un chassé-croisé puisque, je répète ce passage lumineux de son article « Mystère d'État », sous le pape, « Princeps et verus imperator », l'appareil hiérarchique de l'Église romaine, nonobstant des aspects importants du constitutionnalisme, manifesta une tendance à devenir le prototype parfait d'une monarchie absolue et rationnelle fondée sur une base mystique, alors qu'au même moment, l'État avait de plus en plus tendance à devenir une quasi-église et, à d'autres égards, une monarchie mystique fondée sur une base rationnelle. Donc, c'est le contraire de ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une sécularisation de l'Église et une spiritualisation de l'État, un chassé-croisé. Et d'ailleurs, ce chassé-croisé est perceptible dans la scène de Canossa, parce que, après tout, ce n'est pas l'accès à une église dont Grégoire VII bloque le seuil, mais d'un château. Et pour assiéger ce château, le roi fait assaut de l'arme chrétienne. Alors, qui est le plus religieux et qui est le plus politique, si tant est, on va le voir, que ça ait un sens ici, dans cette scène. Ce qui se joue à Canossa, c'est donc déjà un échange entre sacralité et souveraineté, et c'est dans cet échange que se joue, pour moi, c'est en tout cas l'hypothèse que je vous propose de tester à partir d'aujourd'hui, la possibilité d'une expérience politique. Ou plutôt, la possibilité qu'il y ait des expériences, des pouvoirs, et non pas seulement de la domination. Une histoire des pouvoirs, davantage que la chronique désespérante et répétitive, liturgique, en somme, de la puissance. La certitude que notre tâche est là pour l'histoire à venir, c'est-à-dire repérer les foyers d'inventivité, la faiblesse de leur crépitement ténu, non nécessairement pour souffler sur les braises, on ne ranime pas le passé, mais au moins pour y traquer, justement, à la mode foucauldienne, des effets de vérité. Nous sommes inépuisables en expérience, son cours affaibli, mais n'a pas encore définitivement chuté. Nous en sommes là, les expériences criblent le temps solennel et liturgique de l'histoire à majuscule que la réforme grégorienne a peut-être voulu mettre à l'arrêt. Voilà pourquoi je disais la semaine dernière que la formule que j'eus lors de ma leçon inaugurale, il s'agissait alors d'honorer l'intitulé de ma chaire sur l'échec du programme grégorien, était un peu trop abrupte. Alors, je ne vais pas me repentir. Vous avez compris que ça serait aveu de puissance. Mais je vais me reprendre, repenser tout ça. Repenser la productivité paradoxale de cet échec, et ce, précisément parce que je me méfie spontanément de l'abrupte des formulations historiques. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'interdit lancé par Alain Guéraud dans son essai « L'avenir d'un passé incertain, quelle histoire du Moyen-Âge au XXIe siècle » qui est paru en 2001 au Seuil, son interdit qu'il avait lancé sur la notion de politique au nom d'une conception à la fois robuste et brutale de la compacité de l'Ecclésia et du Dominium, m'a toujours semblé, au fond, sinon de faible portée, du moins d'une portée qui était forte, mais suffisamment forte pour qu'on s'en inquiète. Pour Guéraud, le Moyen-Âge n'est pas mort.
Il a été assassiné. Je fais ici une allusion un peu perfide à la chute célèbre du livre d'André Pigagnol, « L'Empire chrétien », 1946. La civilisation romaine n'est pas morte de sa belle mort, elle a été assassinée. Et les nouveaux barbares sont les penseurs des Lumières, pour Alain Guéroult, qui inventent la société contemporaine en disqualifiant le passé, ou plus précisément en en démantelant l'unité, ce qui est parfaitement exact. Je le cite. Dès lors, la politique, le droit, la religion, l'économie sont des notions qui permettent de penser, au moins empiriquement, les sociétés contemporaines. Et lorsqu'on utilise ces termes à propos du 8e siècle ou du 13e siècle, poursuit-il, on disloque a priori l'objet étudié et l'on s'enferme dans une aporie indépassable. Religion et propriété étaient deux macro-concepts entièrement nouveaux au XVIIIe siècle, destinés à la fois à penser et à faire advenir une nouvelle organisation sociale. Leur création et leur adoption firent éclater et disparaître l'ecclésia et le dominium. C'est ce que j'appelle la double fracture conceptuelle qui rendait incohérent le système initial. C'est assez puissant et convaincant. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup parce qu'elle sert de garde-fou pour les étudiants. Ça leur dit, effectivement, qu'on ne peut pas utiliser pour comprendre le Moyen-Âge les instruments qu'on a inventés pendant le siècle de Lumière pour le défaire, pour en défaire, justement, l'unité. Et cette assertion vigoureuse a fait une forte impression sur certains médiévistes français. Je le répète, elle a des vertus évidentes. La principale, c'est de nous apprendre à critiquer nos catégories. Par exemple, il ne suffit pas de dire d'une structure théologico-politique qu'elle est religieuse et politique, puisqu'on se situe en deçà du seuil de séparation, d'un seuil d'indistinction. Elle n'est ni religieuse ni politique. C'est ce que Prodi appelle l'indistinct primordial. C'est-à-dire, au fond, toute archéologie philosophique vise justement un indistinct primordial et il est essentiel pour justement le saisir archéologiquement de ne pas projeter sur lui, eh bien, justement, les caractères qui définissent, là en l'occurrence, la sphère religieuse et la sphère profane, qui nous sont connus parce que c'est le résultat de la scission de cet indistinct primordial. Commentant cela, Agamben écrit cette évidence. De même qu'un composé chimique a des propriétés spécifiques qu'il est impossible de réduire à la somme des éléments qui le composent, de même, ce qu'il y a avant la division historique n'est pas nécessairement la somme des caractères qui en définissent les fragments. Donc, on a toujours raison de se méfier des catégories, en particulier de celles qu'on utilise, de ces catégories modernes qui projettent au-delà d'un grand partage, justement un découpage qui n'a pas lieu. Et voilà pourquoi les termes même du titre même de cette séance, ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, ça s'appelle « Les conditions religieuses de l'expérience politique », sont évidemment problématiques. Tous les termes sont problématiques. Mais voilà, il faut bien parler, et parler en l'occurrence ici, en français. Les médiévistes ont pu, je le répète, être sincèrement et à bon droit impressionnés par la philosophie de l'histoire d'Alain Guéroult, et c'est une philosophie de l'histoire qui est fondée sur l'étanchéité des temps, leur incommensurabilité, sur une mystique, je dirais aussi, de l'intraduisible. Et en ce sens, elle fait impression, comme Giorgio Agamben ou Pierre Legendre font impression. Voilà pourquoi je cheminais avec eux la semaine dernière, mais prudemment, en me méfiant de ces effets d'intimidation des voix fortes. Les médiévistes, adeptes d'une théorie unifiée, du dominium, s'en autorisent pourtant pour prôner une pratique de l'estrangement, pour parler comme Carlo Ginzburg, assez radicale. C'est-à-dire que est médiéviste celui qui repousse au-delà de la séparation de la modernité, entre le Moyen-Âge et nous, le gouffre révolutionnaire, qui donc écarte le Moyen-Âge dans son étrangeté radicale, ou en tout cas dans son altérité, au sens où le médiévalisme américain de Paul Friedman ou de Gabriel Spiegel donne à ce mot. Et cette insistance sur l'altérité a une dimension stratégique et critique, comme le reconnaît Jérôme Bachet dans un article intitulé justement « Entre le Moyen-Âge et nous », beau titre, « Entre le Moyen-Âge et nous ». Stratégique et critique, stratégique car elle permet de conforter une posture scientifique et critique, parce qu'elle la préserve effectivement des pièges d'une fausse familiarité. Alors, tout ça est parfaitement juste, et il ne s'agit pas d'opposer à la manière grégorienne deux statuts, mais disons qu'il y a d'autres manières de faire un usage critique du savoir tout en préservant sa valeur scientifique et qu'elles ne sont pas contradictoires. Par exemple, la notion de propriété. Alain Guéraud dit qu'elle est entièrement nouvelle au XVIIIe siècle. Tous les travaux récents s'attachent à montrer le contraire. Depuis ses premières enquêtes sur la pensée économique du franciscain spirituel Pierre de Jean Olivier, qui portait notamment sur sa théorisation du crédit, Giacomo Todeschini démontre la capacité du lexique théologique à créer des catégories qui donnent forme au réel. Lui aussi se méfie des catégories. La preuve, c'est que Todeschini ne se contente pas d'étudier les textes que nous identifions, nous les modernes, comme économiques, comme relevant par avance de la pensée économique. Non, il fait feu de tout bois, il traque dans les archives de la pratique, dans les règles franciscaines, partout où, au fond, se commande et s'ordonne la mise en ordre des hommes dans une communauté politique. Et pour Todeschini, il s'agit moins de dévoiler les origines chrétiennes de l'économie moderne que de mettre à jour les ressources lexicales toujours actives dans la définition de la société, notamment dans son rapport aux échanges économiques et à l'exclusion sociale. Autrement dit, Giacomo Todeschini décrit en historien ce que Giorgio Agamben décrypte en philosophe, à savoir que le paradigme théologique de l'oikonomia, cette liturgie de la puissance, cette acclamation de gloire, dévoile du même coup la nature divine de l'économie qui nous gouverne. Mais ce détour par des textes anciens permet également de comprendre les limites de la critique ordinaire du libéralisme économique. On se trompe de cible en appelant théologie notre savoir révélé et indiscuté, parce que la théologie véritable fut tout le contraire de ce bloc de certitude qui fonde nos idéologies modernes.
Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Patrick Boucheron, sa série « Les inventions du politique, expérimentation médiévale ». Aujourd'hui, que s'est-il joué à Canossa ?
C'est parce que j'expérimente ici, modestement, à tâtons, d'autres voies vers les mêmes finalités que j'insiste tant sur la friabilité des temps, la réversibilité des expériences, la vulnérabilité des autorités, la discontinuité du cours des choses. M'inspirant de la réflexion de Levent Yilmaz, qui était mon invité l'année dernière, vous pouvez suivre ses leçons sur... le podcast, Levent Yilmaz, dans ce beau livre paru en 2004 sous le titre « Le temps moderne, variations sur les anciens et les modernes », que je cite souvent, qui est une réflexion suggestive sur l'attitude de modernité envisagée justement comme mise à distance du passé, Levent Yilmaz montre que le nouveau monde ne vient pas d'un coup, en un grand basculement des sociétés dans le temps historique, mais au contraire, par une série de décrochements qui lézardent peu à peu le monde figé des certitudes. Je le cite, c'est ainsi, comme par effraction en quelque sorte, et à petits pas, que la nouveauté est entrée sur la scène de l'histoire en Occident. Et voilà ce que je suggérerais donc, une histoire de l'échec de la totalité grégorienne, oui, c'est ce que j'avais annoncé dans la leçon inaugurale, comme une sorte de bombe à fragmentation, dispersant dans toute l'Europe les inventions pontificales en matière d'art de gouverner, de politique symbolique, de métaphore, de symbole, de doctrine, que le pape était incapable de maintenir en sa seule possession, qu'il lâche, qu'il cesse de détenir, mais qui, de ce fait, deviennent disponibles pour d'autres expériences. Et si on a lu Jacques Derrida, ben on peut décrire ce mouvement comme une dissémination, comme un foisonnement de signes qui déborde le sens, comme un mouvement qui n'advient que par les lieux qu'il traverse, qu'il excède. Mais si on l'a pas lu, ben c'est pas grave. On peut toujours parler de dissémination, on peut penser à la dissémination nucléaire, hein, c'est de ça dont il s'agit. C'est l'échec d'un monopole qui crée les conditions d'un nouveau monde dans lequel il y a bien un socle, mais ce socle n'est pas une assise. On ne fonde rien sur lui, ni généalogie, ni architecture doctrinale, mais il crée précisément, du fait de son instabilité et de son hétérogénéité, les conditions même de l'expérience. Donc, l'Ecclésia crée les conditions religieuses de l'expérience politique. Elle ne les bloque pas. Au contraire, elle les rend possibles. Et c'est pour ça qu'il y a du politique. Et que je propose effectivement d'aller voir où il est, où il s'invente, où il s'expérimente. Alors reprenons à partir justement de la réforme grégorienne. Dans son article fondateur intitulé « Église et État au XIe siècle, la signification du moment grégorien pour la genèse de l'État moderne », qui est paru en 1986 dans les actes du colloque de la Casa Velázquez, dirigé par Bernard Vincent et Jean-Philippe Genet sur État et Église dans la genèse de l'État, Pierre Toubert, justement, évoquait, je le cite, « l'expérience décisive du moment grégorien ». Il partait de cette idée du chiasme de Kantorowicz que je vous ai rappelé tout à l'heure. « Entre pape couronné et roi mitré », écrit-il, Toubert. Mais c'était pour inviter les historiens à étudier cette expérience grégorienne, non pas de haut depuis les agencements majestueux de l'idéologie, mais au plus près des pratiques sociales et des expériences politiques. Je le cite. « De quelle force politique propre les écrits grégoriens ou anti-grégoriens se sont-ils survécus jusqu'à l'époque moderne ? À quel moment s'est éteinte leur influence directe ? Par quels canaux souterrains leur contenu a ou aurait-il pu continuer de circuler ? À quel point précis l'écho de leur audience s'est-il perdu ?» Alors, Pierre Toubert avait un questionnement spécifique. Il pensait surtout à une étude de la transmission des textes pour saisir l'histoire de la destinée des contenus doctrinaux. Mais on peut aussi relancer autrement son invitation par une histoire des expérimentations grégoriennes concrètes. Et pour cela, il faut adopter la perspective de Florian Mazel dans ses chapitres de féodalité, sa grande synthèse de 2010. Oui, la rupture grégorienne est bien une révolution culturelle, au sens où elle provoque le basculement d'un monde à l'autre, mais à partir d'un bouleversement des normes qui vise à une transformation personnelle. Elle est une réforme au sens que la conversion chrétienne, augustinienne ou paulinienne, donne à ce mot, c'est-à-dire d'abord une réformation personnelle. C'est-à-dire d'abord une faille individuelle. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de socle intangible. Parce que tout est fondé sur la conversion personnelle. On doit d'abord se réformer. Se réformer pour se renouveler. Réformatio est certes un mot qu'on trouve dans les sources du XIe, XIIe siècle, mais correctio, restauratio, rénovatio également. Et ce dernier terme, en particulier, exprime la légitimité nouvelle de l'innovation au XIIe siècle. Les réformateurs, comme les juristes, ne cherchent pas à se conformer à la coutume, mais à trouver la vérité. C'est Grégoire VII qui s'est exclamé en 1073 dans sa réponse à l'évêque Vimundus, « Si tu t'avises de nous opposer la coutume, rappelle-toi que le Seigneur n'a pas dit « je suis la coutume », mais « je suis la vérité ». Formule reprise ensuite par tous les réformateurs monastiques, puis par le décret de Gratien, formule dont Jacques d'Alarin a montré que l'archéologie textuelle est intéressante parce que Grégoire VII feint de la trouver directement chez le Christ. C'est le court-circuit classique de la réforme grégorienne, l'invention des reliques textuelles, alors qu'en fait, il le trouve chez les pères, et en particulier Augustin, enfin Cyprien, puis Augustin. Et donc, il y a là encore toute une chaîne de transmission. Nous avions parlé, je n'y reviens pas, il y a 2 ans, des implications théologiques sur, justement, la vérité, sur la conception, la nouvelle conception de la vérité, de, justement, cette innovation. C'est-à-dire, il y a effectivement maintenant une vérité théologique intangible, elle n'est accessible que dans l'intellect divin, mais les hommes peuvent y accéder par approximation. Il y a une vérité logique qui se construit contradictoirement par la dispute pour les maîtres, par l'enquête pour les juges. Et tout cela crée effectivement les conditions d'un nouveau régime de vérité. Mais cette théologie de la vérité, elle accompagne ce que Florian Mazel appelle la légitimité du neuf. Ça veut dire, n'attendez pas de nous qu'on répète la coutume. Les réformateurs s'attaquent au vieux monde, à des traditions très anciennes, qu'ils jugent mauvaises au nom de leur exigence de vérité. C'est ça leur attitude de modernité. C'est ce que Jacques Le Goff a magnifiquement écrit dans son livre « Les intellectuels au Moyen-Âge » 1957. Les intellectuels au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle, eh bien, effectivement, réinventent l'idée de progrès, tout simplement, de faire du neuf, d'être des hommes nouveaux. Les intellectuels du XIIe siècle en ont eu le vif sentiment. Et voilà pourquoi, je cite Le Goff, et voilà pourquoi ils ne cessent de s'appeler modernes, des modernes, voilà ce qu'ils sont et savent être, mais des modernes qui ne querellent pas les anciens. Au contraire, qui les imitent, se nourrissent d'eux, se jugent sur leurs épaules. Et bon, là, Le Goff fait évidemment allusion à la fameuse formule « Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants » de Bernard de Chartres, qui montre bien qu'il y a effectivement, tout en respectant la tradition, la possibilité d'un progrès. Cette nouvelle attitude, eh bien, elle rend possible le foisonnement des expériences, qui sont d'abord des expériences de vie, de réforme, de forme de vie. Et d'abord en matière de vie monastique et canoniale. Tout, par exemple, dans les commencements de l'abbaye de Citeaux, qu'on appelait le nouveau monastère, est une critique implicite, ou le plus souvent explicite, de la tradition. Explicite lorsque Bernard de Clairvaux, eh bien, fustige la critique de l'ornementation clunisienne, des formes figuratives. Explicite lorsque Étienne de Harding exige l'établissement d'un nouveau texte de la Bible qui recourt à plusieurs manuscrits qu'il fait établir par plusieurs corrections, qui veut, lorsqu'il ne comprend pas, aller chercher le texte hébreu et araméen, qui va pour cela chercher des correcteurs juifs, parce qu'il lui faut un nouveau texte, avec une nouvelle organisation sociale dans ces monastères, avec des nouvelles techniques hydrauliques, enfin voilà. Nouveau est un mot qui enfle dans les sources du XIIe siècle. La légitimité de la nouveauté ressort aussi, écrit toujours Florian Mazel, de la valorisation des expériences singulières et de la multiplication des genres de vie religieuse. Ce sont des hommes qui décident de vivre autrement. La vie de Norbert de Xanten, fondateur de Prémontré, met en avant le fait qu'il a mené un nouveau type de vie sur Terre et qu'on n'avait jamais rien vu de tel. Et ça crée les conditions, effectivement, d'un foisonnement. Alors, d'abord, il y a une sorte d'accélération. On pourrait égrener les dates des nouvelles fondations monastiques. Molèm en 1075, la Chartreuse en 1084, Citeaux en 1098, Fontevraud en 1118, Prémontré en 1120, le Temple en 1129. Et le Temple, par exemple, c'est une rupture sans précédent avec la tradition, puisque ça réunit les deux modes de vie réputés inconciliables, qui sont la vie monastique et la vie guerrière.
Et on pourrait dire la même chose des convers. L'institution des convers, qui est très importante, celle dont je vais parler à partir de maintenant. Ils apparaissent à la Chartreuse et à Cîteaux avant 1120, après Montré, après 1120, à Grandmont avant 1140. Donc là encore, c'est relativement regroupé. Qui sont les convers? Eh bien, c'est, on va dire, des frères de second ordre, parce qu'ils sont libérés de certaines obligations liturgiques, mais sont chargés d'effectuer les travaux agricoles, artisanaux, domestiques. Donc ça casse effectivement l'équilibre entre le travail manuel et l'opus dei qui était fondement de la règle de saint Benoît. Ce sont des frères laïcs, c'est-à-dire que leur intégration dans la communauté monastique englobe en fait la coupure grégorienne, claire et laïque, et englobe aussi la coupure seigneuriale, seigneur et paysan, parce qu'évidemment, ils sont de bien moindres conditions, c'est eux qui vont bosser. Et si on ajoute tous les statuts intermédiaires, les donnés, les recluses, on voit que la distinction grégorienne, il n'y a que deux, pas trois, pas quatre, deux ordres, qui sont des formes de vie, elle se complique, elle se nuance. Donc c'est ça, cette création, au fond, d'un monde nouveau. Alors vous me direz, la constitution 13 de la 34, 1215, siffle la fin, l'âge des expérimentations. Je cite, « De peur que l'excessive diversité des religions... » Alors attention, ce n'est pas le terme de religion anachronique dénoncé à juste titre par Alain Guéraud. Hein. « Religionum », ça veut dire ici « vie religieuse régulière, communauté, ordre ». Donc on va dire « la diversité des ordres ». De peur que l'excessive diversité des religions n'entraîne une grave confusion dans l'Église de Dieu, nous prohibons fermement que quiconque invente désormais une nouvelle religion. Nous prohibons fermement que quiconque invente désormais une nouvelle religion. Mais qui veut se convertir à la religion, qu'il en prenne une approuvée. Pareillement, qui veut fonder à neuf une maison religieuse, qu'il prenne la règle et l'institution de règles approuvées. Ainsi, Dominique place l'ordre des frères prêcheurs sous la règle d'Augustin, parce que c'est terminé. Ainsi, on peut dire que François d'Assise, qui se disait un nouveau fou dans le monde, comme ça qu'il se présentait, je suis le nouveau fou, un nouveau fou dans le monde, c'est le sommet de ce moment grégorien qui dessine en trait épais, vous l'avez compris, la charnière d'un long XIIe siècle. Dans un livre important sur lequel, maintenant, je vais tenter de bâtir mes hypothèses, dans « Gouverner, c'est servir », essai de démocratie médiévale, paru en 2012, Jacques Dallarin propose des exercices de micro-lecture politique des règles de vie de ces communautés religieuses qui ont effectivement foisonné avant 1215, précisément sur ce socle et dans ces conditions de possibilité que j'ai tenté de définir. Et donc, il met en avant leur inventivité politique. Il tente de dégager la dimension politiquement expérimentale des réformes monastiques des XIIe et XIIIe siècles. Il ne s'agit pas seulement pour lui de mettre à jour une tradition politique contestataire dans les contre-conduites médiévales, tous les ermites un peu bizarres qui ont eu des idées étranges de communauté, mais bien de chercher les conditions de l'expérience. Alors, prenons le plus simple, le plus connu. Il décrit par exemple comment Robert d'Arbrissel, mis à Fontevraud, le monde littéralement sens-dessus-dessous, par son projet proprement renversant de faire gouverner la communauté mixte, puisqu'il y avait des hommes et des femmes à Fontevraud, par une abbesse qui est prise parmi les converses. Mais précisément parce qu'il s'agit d'être au sommet de l'indignité au pouvoir. Puisque le pouvoir est indigne en soi, il faut prendre la plus indigne. Et ça, je parle de Fontevraud, c'est-à-dire de la communauté mixte qu'il installe dans le vallon de Fontevraud en 1101. Le récit se trouve chez son second hagiographe, frère André, dans le supplément à l'histoire de la vie de Robert. C'est à l'été 1115, Robert d'Arbrissel sent la mort l'envahir. « Délibérez entre vous, tant que je suis encore en vie. Si vous voulez persister dans votre projet, à savoir que vous obéissiez pour le salut de vos âmes au commandement des servantes du Christ. Ceux qui n'acceptent pas n'ont qu'à changer de religion, lance Robert, entendez ici de vie religieuse, à ces mots, presque tous dirent d'une voix unanime, loin de nous, très cher père, etc. Presque tous. Quelques-uns sont donc partis. Mais la majorité est restée. Elle est restée sous le gouvernement d'une converse laïque, au sens d'une femme convertie, et non d'une vierge claustrale. On pourrait dire que la possibilité qu'il y ait de la politique réside dans ce « presque tous ». Mais reste que le renversement est complet. Reste que Robert le justifie par l'exemple biblique, qu'on laisse Marie aspirer continuellement aux affaires célestes et qu'on élise Marthe qui sache administrer avec soin les affaires extérieures. Marthe et Marie. À Marie, effectivement, la liturgie, à Marthe, le travail, et le pouvoir est un travail, indigne comme le travail. En mettant à jour les plus anciens statuts de Fontevraud, Jacques d'Allarin a retrouvé d'ailleurs la trace de cette décision antérieure à la désignation de l'abbesse en 1115, qui précisait qu'une des deux prieures claustrales soit une converse. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une composition, une sur deux, qui indiquait, ben voilà, une manière d'expérimenter des moyens de faire de la politique. Alors prenons, et un peu plus longuement, un second exemple, qui est la question de Grandmont. Alors à Grandmont, la question de la présence féminine ne se pose pas, c'est pas une communauté mixte. Ce que nous savons de son fondateur est peu de choses, beaucoup moins que Robert d'Arbrissel. Étienne de Muret était fils du vicomte d'Auvergne. Il fit un voyage en Italie du Sud dans les années 1074-1075. Il fréquenta des ermites calabrais, c'est donc avec la tradition byzantine du monachisme oriental qu'il fut en contact. Il se fit ermite ensuite, mais après avoir passé un séjour à la curie pontificale de Grégoire VII, où il reçut le diaconat, mais refusa la prêtrise par humilité. Et en 1078, il fonde l'ermitage de Muret, dans une solitude boisée au nord-est de Limoges, au pied des monts d'Ambazac. C'est un archipel d'ermitage, de sel, ça s'appelle comme ça, où l'on vit d'aumône, dans le dénuement, sans cultiver la terre, sans aucun contact avec l'extérieur. Et à sa mort, en 1124, les frères se transportent à Grandmont, hors d'emprise des moines bénédictins d'Ambazac, qui apparemment leur cherchaient querelle. Donc c'est une communauté, je dirais, poussée aux limites, dans l'isolement, dans le dénuement, dans le refus du monde. Et on est effectivement dans cette, on va dire, expérience sociale où, hors du monde, se rêve une contre-société. D'accord ? Le parcours d'Étienne Muret doit nous inspirer un premier commentaire. C'est vrai, je viens de le dire, que l'expérience religieuse qu'il promeut est radicale. Un choix de retrait total, c'est une communauté extrême. En ceci, les conditions de l'expérimentation sont réunies. Mais elles le sont dans des conditions sociales qui ne sont pas atypiques. Robert d'Arbrissel, lui, c'est vrai, c'est un homme nouveau, il vient de nulle part. Son aventure politique peut être interprétée comme une dissidence. À l'inverse, le parcours d'Étienne Muret, il est caractéristique de la dynamique d'ensemble de la réforme grégorienne qui attaque au cœur de l'aristocratie. Il est fils de vicomte, je le répète. C'est à l'intérieur des lignages aristocratiques que se recrute le personnel de la réforme grégorienne. Lorsque l'Église n'a pas le moyen de trouver des hommes neufs, elle capte les anciennes élites et les convertit à son projet. Elle transforme et détourne l'aristocratie en méritocratie. Elle contribue à ce que Joseph Morcel appelle la déparentalisation. C'est-à-dire qu'elle précipite le détournement de fidélité de la parenté charnelle à la parenté spirituelle. Elle fait de la circulation du lien de la caritas, décrit par Anita Guéraud-Jalabert, le système d'échange qui fonde anthropologiquement la société médiévale. Parce que Maurice Godelier ne cesse de le dire, aucune société ne se fonde sur la parenté. La parenté ne fait pas société. Ce qui fait société, c'est la circulation. Et là, la circulation de quoi ? En l'occurrence, de la caritas, mais aussi de l'expérience. Puisque Étienne Muret a été à Rome. Il a été formé à l'expérimentation politique de la réforme grégorienne. On pourrait ici multiplier les exemples. Dans sa thèse sur les structures du latium médiéval, Pierre Toubert a des pages lumineuses sur la restauration de l'épiscopat grégorien à partir de l'expérience de certains évêques, Pierre d'Anagny, Brunon d'Asti, Bérard des Mars. Et dans ces trois cas, l'expérience curialiste est décisive. Ils sont arrachés à leur monastère, ils sont convertis à la réforme grégorienne auprès, là en l'occurrence pour ces trois-là, de Paul II, et ensuite ils sont lâchés sur le terrain. Et dans le cas de Bérard de Mars, qui incarne, dit Toubert, un modèle épiscopal archaïque de type purement grégorien, eh bien, Jacques d'Alarin a montré, en éditant et traduisant sa vie, qu'il y a là un modèle effectivement expérimental, je dirais, de gouvernementalité pastorale. Mais revenons à Grandmont. Là, on parle d'un Étienne de Muret qui, effectivement, a été voir les moines, a été à la curie, mais décide de ne pas être prêtre. Autre différence, la situation documentaire, elle est très différente de celle de Fontevraud. Contrairement à Robert d'Arbrissel, Étienne de Muret n'a laissé aucun écrit, seulement des enseignements oraux, recueillis par un disciple. Hugues Lacerta, qui est mort en 1157, lui aussi c'est un ancien chevalier qui est devenu frère laïc. Et ce livre, qui s'appelle « Livre sur la doctrine » ou « Livre des sentences », eh bien, c'est un recueil d'admonestations orales qui reprennent la forme des apophtegmes des pères du désert. Ce refus du gouvernement par l'écrit, c'est une autre manière de s'imposer à la mémoire. Jacques Goudin nous le montre. D'une certaine manière, c'est plus rigide, parce que ça ne permet pas le grand jeu, la machine du commentaire. La canonisation, effectivement, d'écrit, crée aussi les conditions de la glose infinie. Là, c'est effectivement figé comme, je dirais, la parole du fondateur. Donc c'est là où on entend ce qui pourrait être, je dirais, l'intuition initiale. Davantage que dans la géographie, qui est tardive et peu sûre. Et c'est dans ce livre que l'on peut lire l'expression d'une pensée que Jacques d'Alarin compare à une forme de socialisme utopique, inspiré des actes des apôtres, tout bien est meilleur en commun que s'il ne l'est pas. Il en reste quelque chose dans la règle de Grandmont, qui fut mise par écrit peu avant 1156, sous l'impulsion du quatrième prieur, Étienne de Lissiac, prieur, qui commanda également une hagiographie du fondateur. Donc nous partons ici d'un postulat documentaire, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il est impossible de ne pas le suivre en l'absence d'autres sources, mais on doit rappeler que c'est un postulat documentaire. Nous partons du postulat que le livre des sentences rapporte les enseignements du fondateur, et la règle documente ce qu'est devenu la fondation 80 ans après. De l'un à l'autre, le passage de l'intuition à l'institution. Ces deux strates que nous appelons Muret et Grandmont, avec le risque, au fond, de reproduire une typologie qui est une typologie formelle entre deux entités textuelles, après tout on a un texte spirituel et un texte normatif, c'est notre source. Ce qui est commun aux deux, c'est l'idée d'une communauté qui forme un tout uni comme le corps du Christ. Dieu attribue une vertu à l'un, une autre à l'autre, enfin l'ensemble d'une communauté religieuse forme Jésus-Christ.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Patrick Boucheron, sa série « Les inventions du politique, expérimentation médiévale ». Aujourd'hui, que s'est-il joué à Canossa ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Il a publié au Seuil en 2019 « La Trace et l'Aura, vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e-16e siècle ». Son livre « Faire profession d'historien » publié en 2010 a fait l'objet d'une édition en point Seuil en 2018. Iconographie et site web Claire Poinsignon et Marion Barsac. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des expérimentations politiques médiévales en compagnie de Patrick Boucheron. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.